citoyen au quotidien sur RCN
avec la CLCV de Malzéville-Saint-Max.
Sylvie Gruy, Christian Saquet.
Chers auditeurs, bonjour. Bonjour Sylvie.
Bonjour Christian.
Bonjour Jean-Luc, notre technicien son. Alors Sylvie, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on va parler de... Alors c'est un sujet qui est tiré du journal cadre, du dernier journal cadre de vie. Et ça parle des allégations alimentaires. Alors on en a déjà un petit peu parlé à différentes périodes. Mais là, donc il y a un dossier complet. Donc le journal cadre de vie, alors un dossier complet, c'est 4 pages qui traite donc de ce sujet. Alors tout d'abord, peut-être déjà dire qu'est-ce que c'est qu'une allégation alimentaire. C'est pareil, on l'a déjà expliqué, mais je pense que c'est quand on revient dessus qu'on s'imprègne vraiment. Alors les allégations alimentaires, c'est par exemple riche en oméga 3, ça on va le trouver sur de la margarine. Allégé en sucre, on va le trouver sur des desserts. Source en vitamines, qu'on peut des fois même trouver sur une bouteille de lait. Réduit le cholestérol. Alors là, on sort même de l'allégation alimentaire où on est là sur une allégation santé.
Donc mais est-ce que c'est légal, ça ?
Alors, c'est légal, mais ce qu'il y a aussi, c'est que c'est impossible maintenant de faire nos courses en grande surface sans se trouver face à des produits qui comportent ces messages. Il y en a vraiment partout. Alors, je ne sais pas si sur une boîte de cassoulet, il y en a. Je ne sais pas, mais en tout cas, il faudra peut-être aller voir. Voilà. On va avoir aussi des allégations « bon pour la santé » ou alors « réduisent les risques cardiovasculaires ».
Il y a tout... aussi sur les bouteilles d'eau.
Alors, qu'est-ce qu'il y a sur les
riche
bouteilles
d'eau ? Riche en minéraux.
Ah oui, riche en minéraux, oui. Je bois tellement peu d'eau en bouteille que je ne sais même pas ce qui est écrit dessus.
Non, mais on les voit à la télévision, ces informations.
C'est ce qu'ils mettent en avant.
C'est quoi ? C'est Rosanna ?
Mais pourquoi tu fais de la pub ? Il faut pas.
Je ne fais pas de la pub. Rosanna, c'est alors, potassium, potassium, voilà. Potassium. Et ça ne fait pas trop, des fois, du potassium.
Voilà. Hein. Et quelquefois, ça fait trop quand il y a trop de sel. Alors, la question qu'il faut aussi se poser, pourquoi ? Alors, pourquoi ils font ça, les professionnels de l'agroalimentaire. Je cherche mes mots. Là, ça va devenir compliqué. Il faut quand même toujours avoir l'idée. Moi, j'explique souvent, par exemple, quand ça concerne du démarchage, le démarchage à domicile, le démarchage au téléphone, c'est toujours de se dire, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles attendent de nous ? Elles attendent qu'on achète un produit. Et bien là, c'est pareil. Tout ce qui se trouve dans les supermarchés, ce que veulent les professionnels, c'est qu'on achète plus, c'est qu'on achète leurs produits, leurs marques.
Ça veut dire qu'ils veulent vendre.
Voilà, ils veulent vendre, ils veulent engranger de l'argent pour eux et pour leurs actionnaires. Voilà, je vais faire des copains, ça. Donc voilà, donc c'est ça les allégations alimentaires. Alors, il y a un encadrement. C'est vrai que même s'il y a plein de trucs qui nous apparaissent sous les yeux, il y a quand même un encadrement européen. Merci l'Europe. Donc depuis 2006, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait combien ? Ça fait 17 ans. Les allégations de santé et nutritionnelles sont définies et encadrées par un règlement européen. Alors encore heureux, parce que s'il n'y avait pas de règlement européen, je pense qu'on aurait tout et n'importe quoi. Donc une allégation nutritionnelle donc communique ou suggère qu'une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques. Il s'agit par exemple, comme je le disais, un réduit en sel, riche en calcium, source de fibres. Ça, j'avais oublié, source de fibres aussi. On le trouve ça, par exemple, même des fois sur certains biscuits, riches en fibres. Enrichis en stérols végétaux,
ouais,
etc.
Alors, les stérols, moi, je me suis posé la question, c'est quoi ?
Eh bien, je ne vais même pas te donner la réponse parce que je n'ai pas été la chercher sur Internet. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ça fait bien. Stérols végétaux. Alors déjà, on se dit, il y a des végétaux dedans, youpi. Et puis des stérols, on ne sait pas ce que c'est, mais ça fait intelligent, quoi. Ça fait bien. Et puis, il y a plein de trucs comme ça.
Faible teneur en graisse.
Voilà, faible teneur en graisse. Voilà.
Alors, ça me fait penser aux gens qui cherchent à acheter des beefsteaks, de la viande, où il ne faut pas qu'il y ait de gras.
Voilà.
Alors que le gras, c'est ce qui fait le goût de la viande.
Alors là, on était sur les allégations donc, alimentaires, et puis l'allégation donc, de santé, ça recouvre toute mention utilisée sur les étiquettes à des fins de publicité ou sur des produits de marketing selon laquelle la consommation d'un aliment donné, tel que les vitamines, les minéraux, les fibres, les bactéries, Les probiotiques aussi, ça c'est pareil, ça on en entend quand même vachement parler, peut avoir des bienfaits pour la santé. Donc on est vraiment dans un truc, voilà. Alors la réglementation européenne est venue interdire toute allégation de santé qui ne soit pas démontrée scientifiquement. Les industriels doivent apporter les preuves du bénéfice pour la santé qu'ils souhaitent indiquer sur leurs emballages. Donc ils doivent faire ça auprès de l'autorité européenne de sécurité des aliments. Et ce n'est que si seulement cette autorité européenne confirme une preuve scientifique sérieuse que la Commission européenne et le Parlement européen autorisent ou non l'allégation. Voilà. Donc, certains nombres d'allégations donc, présentes avant 2006 ont ainsi été interdites. Par exemple, il y avait des mentions comme « renforce le système immunitaire »,« participe au maintien d'une bonne flore intestinale ». Ça, normalement, on ne doit plus le trouver. Voilà. Enfin, donc, le règlement interdit aussi d'attribuer à des denrées alimentaires des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine ou d'évoquer de telles propriétés. Par exemple, il y avait, je me souviens pas avant 2006, il y avait ça, mais apparemment, il y avait certains produits qui indiquaient réduit la douleur arthritique. Faut le faire quand même, hein.
Voilà. Par contre, le maintien d'une bonne flore intestinale, il pourrait le mettre sur des yaourts.
Oui, tout à fait, puisque de toute façon, là, c'est voilà, les yaourts, mais vraiment le vrai yaourt, hein, pas la crème dessert, le vrai yaourt avec,
yaourt nature.
Le yaourt nature fait normalement, il a effectivement quelque chose de favorable sur la flore intestinale. Alors, on pourrait se dire, chouette, youpi, il y a une réglementation, tout va aller pour le mieux. Eh ben non. En 2021, donc une enquête de la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, donc sur l'étiquetage, ils ont fait une enquête sur l'étiquetage et la présentation des emballages, notamment les thés, les chocolats, les céréales pour le petit déjeuner, ont constaté donc de nombreuses allégations de santé sur les produits alimentaires non conformes, surtout sur Internet. C'est bien de le faire sur Internet, puisque de toute façon, c'est aussi là que se font le plus d'achats maintenant.
Donc, ils ont contrôlé, je crois, 300 établissements.
Voilà. Et le taux, alors le taux était quand même vachement élevé, le taux d'anomalie. C'était quand même 44%. Presque un produit sur deux. Ouais. C'est un truc de fou, quoi. On pourrait encore se dire, bon, il y a 5% de produits qui sont pas... Non, qui sont pas dans les clous. Non, là, 44%, c'est un truc énorme, c'est un truc de dingue. Alors, les plus fréquemment épinglés dans les manquements, c'était les allégations thérapeutiques pourtant interdites. Donc, par exemple, il y a des produits qui marquent pour lutter contre l'anémie. S'utilisent lors d'un rhume. Alors, ça, c'est quand même pas mal, quand même. Je vais manger des biscuits et en même temps, je me soigne pour mon rhume. C'est impeccable. Ou alors, utilisé dans le traitement de certaines dermatoses comme l'acné, l'eczéma, le psoriasis. Enfin, on ne sait plus du coup si on est dans un rayon alimentaire ou si on est dans une pharmacie. La limite est mince entre les deux. Hein.
Par exemple, noix de coco facilite la digestion.
Voilà, ça c'est un truc aussi qu'ils ont trouvé. Bon, après, je ne sais pas si ça facilite la digestion, mais en tout cas au niveau du bilan carbone, la noix de coco, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Parce qu'elle pousse pas sur notre territoire métropolitain. Ou alors, il y avait la biotine contribue au maintien d'ongles normaux. Si on ne mange pas la biotine, on a des ongles qui ne sont pas normaux et je ne sais pas ce que c'est qu'un ongle normal ou pas normal. Donc c'est quand même, c'est quand même un truc de fou. Alors on peut se dire, voilà, il y a ce règlement, ils ont fait une enquête, la DGCCRF a fait une enquête, voilà, tout va bien. Mais en fait, la réglementation européenne, elle ne fixe aucune exigence sur le profil nutritionnel global des aliments. Donc il y a énormément de produits qui sont déséquilibrés. On sait par exemple, pour connaître la valeur nutritionnelle, qu'on a notre fameux Nutri-Score, qui nous indique si un produit d'une même catégorie est meilleur ou moins bon, avec ce fameux score qui va du vert à rouge. Alors ce qu'il faut savoir par exemple par rapport au Nutri-Score, c'est qu'il y a le lobbying des grands industriels de l'agroalimentaire qui sont en train de travailler pour dézinguer le Nutri-Score. Quelque part, il doit les gêner. S'ils ne tenteraient pas de le mettre par terre si ça ne les dérangeait pas. Donc, concernant ça, donc effectivement, donc il n'y a pas assez d'exigences. Nous, on a fait aussi quelquefois des enquêtes concernant donc tous ces produits. On le disait dans l'émission précédente, concernant les produits pour bébés, où on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui sont qui trompent en fait le consommateur. Il y a des choses qui ne sont pas fausses, mais ça vient tromper le consommateur. Parce que quand on voit ces allégations nutritionnelles, ces allégations santé, ben on se dit, oh, je peux acheter tel produit parce que ça va être bon pour moi. Il y a quand même aussi, après, avec des comportements, quand on est sur du grignotage, quand on mange trop de produits industriels, notamment avec les additifs, où c'est pas bon pour nous. Hein, donc, voilà. Et on se retrouve aussi avec un tas de produits qui sont marqués enrichis. Alors, par exemple, je parlais tout à l'heure du lait. Pourquoi un lait qui contient déjà naturellement du calcium, pourquoi certains laits sont encore enrichis en calcium? Il faudra quand même qu'on m'explique pourquoi on est obligé d'enrichir en calcium du lait. C'est pas vraiment le but du truc, quoi. Les allégations, alors, sur les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, c'est aussi un truc de fou. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui démontre que de prendre de la vitamine C, en comprimé, que ça va m'apporter quelque chose. Par contre, manger des aliments qui contiennent beaucoup de vitamine C, ça sera bien meilleur. Donc, il y a toute cette chose autour des allégations, autour par rapport aux compléments alimentaires. Et il faut que le consommateur s'informe sur la réalité des choses. Parce que c'est pas possible de continuer comme ça, quoi.
Donc, dans le premier confinement, il y avait justement des propositions qui étaient dangereuses. Prévenir le système immunitaire de son pacte spécial immunitaire.
Voilà.
C'est grave, parce que les gens pouvaient se mettre à consommer ces produits-là.
Je pense que pendant le premier confinement du Covid en 2020, je pense quand même qu'il y a énormément de personnes qui ont acheté des compléments alimentaires pour booster leur défense immunitaire. C'est vrai qu'en plus, alors là, ils travaillaient en plus sur quelque chose, un vent de panique, puisque on n'a pas besoin de faire un grand effort pour se rappeler dans quel état d'esprit on était. On avait quand même quelque chose qui nous touchait, ou avec des personnes qui tombaient malades, d'autres qui sont décédées, etc. On n'avait pas non plus, au départ, vraiment de choses pour prévenir. Le vaccin, il n'y en avait pas et tout. Donc c'est vrai que quand des personnes se sont dit, ben voilà, il y a des compléments alimentaires qui vont pouvoir m'aider à me porter mieux, à peut-être à lutter contre cet ennemi invisible qui était le Covid, eh ben je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont acheté. Enfin, c'est un truc de malade, quoi. Hein. Voilà, et c'est vrai que en plus, quand on les allégations sur les compléments alimentaires, il suffit d'aller par exemple dans une parapharmacie pour se rendre compte l'importance du rayon des compléments alimentaires. Il y en a pour tout. Il y a les compléments alimentaires. Nous, d'ailleurs, même à la CLCV, on a lutté quand même, hein,
oui,
contre certains compléments alimentaires. Quand il y avait un complément alimentaire qui disait qu'il permettait de perdre 700 calories par jour. C'était pas jusqu'à, non, c'était de dire, on assurait au consommateur, puisque là c'est pas un patient, hein, c'est un consommateur de compléments alimentaires, le professionnel promettait au consommateur qu'il allait, en prenant ce simple complément, perdre 700 calories par jour. Donc ça peut être en plus à inciter les gens à consommer encore plus en se disant, bah, de toute façon je vais prendre ma petite gélule et je vais perdre 700 calories. Donc la CLCV a lutté contre ça, a été en procès, quoi.
Il y avait des margarines, là, qui proposaient réduit en cholestérol quand on consommait cette margarine.
Voilà. Bah, c'est même comme certains beurres, par exemple. Il y a le vrai beurre, on sait qu'il est gras. Et puis, il y a les faux beurres, où on nous promet, bah, pareil, on dit, bah, du coup, c'est plus une graisse animale, c'est une graisse végétale. Donc, ça va être mieux, parce que l'animal, maintenant, voilà, c'est un peu la bête noire. Et où on nous dit que ces graisses végétales vont être bonnes pour le cœur. Donc ça incite les consommateurs à aller vers ces produits-là. Il faut quand même aussi rester, je pense, très prudent pour consommer. Et le meilleur référent qu'on doit avoir, c'est quand même notre médecin traitant. Lui demander ce qu'il en pense. Quand on a en plus une pathologie, quand on a un souci, c'est avec lui aussi qu'on doit discuter de qu'est-ce que je dois manger, pas manger, plutôt que de se tourner tout seul faire de l'automédication, même là, si ce n'est pas du médicament, c'est du complément alimentaire, mais d'aller tout seul sur ce genre de produit.
Je crois qu'il y a une affirmation que l'on peut faire ici, là, en direction des auditeurs. Il n'y a pas d'aliment miracle.
Non. L'aliment miracle, c'est plutôt une alimentation miracle, c'est de manger varié. Éviter le plus les aliments qui sont ultra transformés, parce qu'on le redit, les aliments ultra transformés, bah, c'est beaucoup d'additifs. On peut très bien, on n'a pas besoin d'aller s'acheter. Alors on peut avoir des aliments préparés le jour où on n'a pas le temps vraiment ou quoi que ce soit, mais il ne faut pas non plus que ça devienne une habitude. Les meilleurs aliments, c'est comme ceux aussi qu'on prépare, qu'on peut préparer sainement chez soi.
Si on reprend l'exemple de la margarine enrichie au stérol végétaux, qui réduit le cholestérol, on lit au dos du paquet et en petit caractère que ce produit est strictement destiné aux personnes qui doivent réduire leur taux de cholestérol.
Voilà. Mais ils le mettent en petit et ils le mettent derrière, ils ne le mettent surtout pas sur l'avant du produit. Généralement, quand... Alors, c'est pareil, c'est un truc aussi du marketing. C'est vrai que ce que le professionnel veut que l'on voit, il va le mettre sur le devant du paquet. Ce qu'il veut qu'on voit un peu moins, c'est qu'il le met derrière.
Ouais, des petits trucs derrière, là, en tout petit caractère. Voilà. Il faut consommer au moins 90 grammes de margarine pour espérer un effet et avoir par ailleurs une alimentation variée et un mode de vie sain.
Voilà. Donc, c'est vrai que le truc miracle, bah, c'est comme de manger sainement. Manger de tout, mais pas non plus manger en grande quantité. Le grignotage, on sait très bien que ce n'est pas bon pour notre santé. Voilà quoi. Et là, par contre, c'est pareil. Il faut éviter de consommer plus de 3 grammes de stérols végétaux par jour. Ça, c'est, à mon avis, ça, ils ne le mettent pas sur leur truc de margarine. Voilà, le produit n'est pas non plus, alors qu'il a une allégation santé, il n'est pas non plus destiné aux femmes enceintes ou allaitantes, et il n'est pas plus non plus conseillé aux enfants de moins de 5 ans. Mais ça, c'est pas mis sur le truc. Voilà.
C'est marqué derrière.
Voilà. Et puis, c'est pareil. Ce qui est marqué aussi en petit caractère et derrière, c'est que les personnes donc sous traitement doivent consulter un sous-traitement hypocholestérolémiant, doivent consulter leur médecin avant d'en consommer. Je vois le...
Tu vas chez ton médecin et tu dis, est-ce que je peux consommer ça?
Voilà. Alors, ça peut paraître idiot, mais c'est quand même le meilleur truc à faire, quoi. C'est comme le médecin qui est le référent en matière de santé. C'est en tout cas pas moi. Même si je peux lire un tas de choses sur des magazines ou quoi que ce soit, c'est pas moi qui vais devenir spécialiste. Voilà, donc les conseils de la CLCV pour voir plus clair donc, dans les rayons, c'est comme pour l'histoire des prix, c'est il faut pas prendre tout pour argent comptant quand on parle d'allégations alimentaires, de santé et tout ce qu'on veut. Il faut toujours aussi se reposer la question. Je parlais tout à l'heure du lait enrichi en vitamine D. Est-ce que j'en ai besoin? Là, c'est pareil. Il faut aussi regarder la différence de prix avec le produit de base qui n'est pas enrichi en vitamine D. Et voilà, il faut vraiment se poser la question, comparer les prix, comparer aussi la composition, parce que on va avoir quelquefois des produits, et je pense aux céréales pour enfants. Il y avait une enquête CLCV aussi là sur le sujet, où il y avait des céréales qui prônaient le fait qu'il y avait moins de sucre, d'autres qui prônaient le fait qu'il y avait moins de gras. Bah oui, mais il faut savoir que ce qui fait aussi le fait que nos gamins, ils aiment bien les céréales, c'est justement que c'est gras et que c'est sucré. Donc quelquefois, le sucre, ils le remplacent par des produits sucrants de synthèse, et c'est pas meilleur pour la santé. Puis quelquefois, quand on supprime vraiment le sucre sans le remplacer par autre chose, on va quand même le remplacer par du gras. Donc à un moment donné, il y a des choses qui se mélangent aussi, toujours ouais. Un petit peu sur le truc.
Il y a un truc dont je me souviens, là, quand tout au début que j'étais à la CLCV, j'avais été stupéfait par les actions de la CLCV, qui est toujours vigilante d'ailleurs, et qui avait détecté des messages de marketing sur des Danone Actimel.
Ouais.
Je ne sais pas si tu te souviens, là, c'était
oui.
2002, ça.
Oui, c'était il y a longtemps. Mais voilà, c'est vrai que c'était... Alors là, c'était, on pouvait y aller, on pouvait en manger autant qu'on voulait. À la limite, il aurait plus fallu qu'on mange que ça, tellement c'était
bon.
Ah
oui, je me rappelle, il y avait un spot qui incriminait un enfant qui faisait tomber un gâteau dans un bac à sable avant de le porter à sa mère. Avant de le porter à sa bouche, sa mère lui avait expliqué qu'il risquait rien parce qu'il buvait de l'actimel.
Donc t'as le droit d'aller toucher tous les microbes que tu veux, tu pouvais boire ce produit-là et t'étais protégé.
Et bah non, la ça CLCV protège pas. Avait obtenu gain de cause, là.
Voilà. Non, c'est contre ça qu'on se base, contre ces allégations qui, non seulement, ne s'avèrent pas forcément justes, mais qui peuvent, en plus, porter atteinte à la santé des gens, quoi. Parce que c'est pas parce que je boirais ou je mangerais n'importe quoi que je pourrais aller toucher tous les microbes que je veux. Et puis, et par rapport à ça, le fait qu'il ne faut pas prendre tout pour argent comptant, il y a un autre exemple, justement, dans le dossier de la CLCV. C'était lors d'une enquête en 2021, ça portait sur les jus de fruits, les smoothies et compagnie. Et il y avait une boisson au cranberry qui avait l'air de tout d'un truc vachement sain, parce qu'on nous propose souvent, on nous met en avant le fait qu'il y a des fruits, la qualité du fruit en lui-même. Donc là, c'était marqué qu'il était riche en vitamine C, antioxydants, donc sur l'emballage. Et en fait, quand on regardait la composition donc, du jus de fruits, c'était un des jus de fruits les plus sucrés de notre enquête, avec l'équivalent de 2 morceaux de sucre pour un verre de 150 ml. 150 ml, c'est quand même pas grand-chose. voilà, ça fait un verre qu'on peut avoir dans la cuisine.
Ben, il était noté sur le Nutri-Score ?
Voilà, il est noté maintenant, peut-être, je ne sais pas à l'époque, mais maintenant il est noté E, ce qui veut quand même bien dire que nutritionnellement, c'est un très mauvais produit, parce que je le rappelle que la meilleure note, c'est A. Et la moins bonne note, ça doit être E, je pense.
Oui, ça doit être
E. Je pense pas qu'il y ait de F. Voilà. Et toujours, donc, avoir... Se rappeler que pour faire une allégation santé, le professionnel doit apporter la preuve que ça a vraiment un impact sur la santé. Il doit pas non plus le... Quand on voit quelquefois dans les pubs, ça, il faut vraiment des fois bien regarder, pareil, ce qui est écrit en tout petit, hein, parce qu'il y a le message qui est dit dans une pub, puis il y a les petites choses qui sont écrites. Quand on voit qu'un test a été réalisé sur 100 personnes, ben là, on peut remettre en question leur fameuse étude, parce qu'une étude faite sur 100 personnes, ça ne tient quand même pas à grand-chose. Voilà.
Surtout si on les a choisis, les 100 personnes.
Oui, ben surtout si on les a choisis, puis même si on ne les a pas choisis, on est quand même plus de 60 millions en France. Si on fait une étude sur 100 personnes, ça ne représente personne, quoi. On va vous passer, faire une pause musicale avec Vianney, et le titre de la chanson, c'est « Maintenant ».
J'ai fait mon sac 100 fois, jamais sûr d'être au bon endroit. Je regarde le monde et je m'y fais pas, immonde et sublime à la fois. Je me pose 1000 questions par jour, je suis au tiers du parcours. Est-ce que vivre vieux vaut le détour? On veut marquer l'histoire, manger le monde, hanter les mémoires. L'ego s'égare, alors on tombe à travers le miroir. De jeunes et dociles, on finit fossile. Est-ce que penser à demain est utile ou dérisoire? Je suis prêt à me battre encore 1000 ans, et je vais le faire pour mes enfants. Avant j'avais jamais peur, puis je suis devenu parent. J'ai peur de l'avenir, non pas du mien mais du leur. Non pas des liens mais du pire, monte les mers, fane les fleurs. Les anciens nous enseignent, les gamins les emmerdent et tout ça ne changera pas. C'est fini les lèvres, fini les rêves, fini les dix papas. Toi qui as vécu 1000 vies, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que la vie se vit au paradis ou ici-bas?
Maintenant, mais pas après. Chérie, l'instant, balaye le passé. Certains voudraient vivre vieux. C'est une erreur. Faut vivre mieux. Maintenant, mais pas après. Chérie, les gens, balaye les regrets. Certains voudraient vivre vieux. Moi, j'ai pas l'heure. Tant mieux.
J'ai fait mon sac 100 fois. Un jour, on le fera pour moi. Et je le saurai même pas, mais ce sera la dernière fois. J'y pensais jamais, pourtant je devrais. Pourtant je sais que je vais pleurer si j'ai rien vécu d'ici là. Donnez-moi d'être pardonné. Jetez-moi si j'ai rejeté. À quoi bon le pouvoir des mots s'il ne sert au devoir d'aimer? pour garder l'ivresse de ma jeunesse, pour tenir mon cœur allumé. Dis-moi le secret, c'est maintenant, mais pas après. Chéris l'instant, balaie le passé. Certains voudraient vivre vieux, c'est une erreur, faut vivre mieux. Maintenant, mais pas après. Chéris les gens, balaie les regrets. Certains voudraient vivre vieux, moi j'ai pas l'heure,
tant mieux.
Certains voudraient vivre vieux.
Moi je veux partir
heureux.
Citoyen au quotidien sur RCN.
Sylvie Gruy, Christian Saquet.
Alors voilà, maintenant là, on peut y aller, on peut parler des notaires. Je te passe la parole, Christian.
Eh bien, on va faire un quiz. Je vais te poser la question et toi, tu répondras ce que tu penses qui est vrai ou faux.
D'accord.
Alors, les notaires, c'est des personnes particulières. On a toujours des idées qui sont parfois fausses, parfois vraies. Donc voilà, on va faire ce petit quiz, là, tous les deux. La première question. Les notaires sont de génération en génération. Vrai ou faux ?
Alors, bon, alors, c'est vrai qu'on voit des cabinets de notaires qui sont marqués de un père et fils ou je ne sais pas quoi. Mais moi, je serais tentée de dire que c'est faux. On peut très bien, même si on n'est pas notre papa n'est pas notaire, je pense qu'on peut très bien devenir notaire à notre tour. Alors, vrai ou faux ?
Effectivement, c'est faux. On devient notaire en suivant des études spécialisées et en décrochant son diplôme au bout d'un cursus après bac de 7 ans. C'est quand même... moi, j'ai eu le cas aussi pour des vétérinaires où on pensait que le cabinet vétérinaire, c'était de père en fils.
Père en fils.
Eh bien, non.
Voilà.
Deuxième
question suivante.
Deuxième petite question. On est obligé de faire appel à un notaire pour une succession. Vrai ou faux ?
Alors, moi, je serais tenté de dire les deux. Je serais tenté de dire vrai pour certaines successions peut-être plus importantes et non pour une très petite succession. C'est quoi la réponse ?
Eh bien, c'est vrai, on est obligé de faire appel à un notaire pour une succession, notamment lorsque dans une succession, il y a un bien immobilier. Le notaire, ce professionnel du droit, détient un monopole sur certains actes. Il est le seul habilité, par exemple, à rédiger un contrat de mariage, une hypothèque ou encore la vente, et le don ou le partage d'un bien immobilier. Et puis, pour faire les papiers de la succession... Ben, il vaut quand même mieux passer par un notaire.
Voilà, donc c'est lui qui effectivement, s'occupe de tout.
Oui, il s'occupe de tout. Et puis, il y a toujours des choses qui sont plus ou moins cachées dans une succession. Mm-hmm. Et puis, le notaire, lui, il va débusquer. Par exemple, la première chose qu'ils font, c'est de rechercher qui sont les héritiers.
Voilà, et puis, il y a par exemple...
On peut avoir quelqu'un qui est effectivement héritier, qui a été un enfant non déclaré, mais qui existe.
J'allais dire caché.
Caché, oui.
Et puis je pense aussi, par exemple, pour les démarches à faire, c'est lui aussi qui, du coup, fera les démarches auprès des impôts, puisqu'il faut déclarer...
Complètement.
Voilà, donc c'est à ça que je pense.
Alors, il y a aussi une idée comme ça dans la tête des gens. L'argent qui est versé à un notaire part directement dans sa poche. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?
Alors, dans sa poche directe, peut-être au cabinet notarial, je ne sais pas, mais en tout cas, la totalité ne vient pas dans sa poche, puisque de toute façon, en plus, il a des frais, et il doit avoir peut-être aussi des choses à régler, lui.
Bah, dans tous les cas, c'est faux.
Voilà.
Il n'y a qu'une fraction seulement qui lui revient. La part prépondérante se compose d'impôts et de taxes qu'il a la charge de collecter pour le compte de l'État et des collectivités. Donc la commune... La région, une communauté de communes, c'est ce qu'on appelle les fameux frais de notaire qu'il faut régler en cas d'achat immobilier. Dans les 7 à 8% du prix de vente, 1% est seulement destiné au notaire. Le reste alimente les caisses des impôts et des collectivités.
Voilà, donc voilà. Et après, je pense aussi que même dans ce qui lui arrive à lui, ça ne lui reste pas dans sa poche pour vivre tous les jours, parce que son cabinet notarial, il a aussi des frais.
Il faut le faire vivre, le cabinet.
Hein, il y a aussi
il
des
a des
frais,
charges, hein, voilà. Il y a, il y a, il y a, y a plein de frais, hein. Ils ont aussi, eux, des charges. Voilà. Quoi. Ils ont de l'électricité, ils ont...
L'assurance des locaux, les locaux à payer, enfin voilà.
Alors, il y a aussi, souvent, on entend, oui, les notaires sont tous des hommes. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?
Eh ben, écoute, là, je vais te dire, j'en sais rien du tout. Je pense qu'il y a effectivement... Enfin, c'est vrai que l'image qu'on peut avoir, c'est peut-être justement des cabinets notariaux où on voyait plus le nom d'un homme. Mais après, je pense que dans un cabinet notarial, il n'y a pas que la personne à qui appartient le cabinet. Il y a aussi d'autres personnes, quoi. Donc, je sais pas. Là, du coup, je sais pas.
Alors,
dis-moi tout.
C'est faux. On comptait fin 2022 9768 femmes notaires et 7547 hommes, c'est-à-dire 56,4% contre 14,5% en 2000. Par contre, à la tête des offices, ce sont les hommes qui en sont le plus, qui sont le plus représentés.
Ah, c'est
effectivement,
bien,
voilà.
C'est bien ce que je disais. La vision qu'on en a, c'est ça. C'est effectivement, on voit plus à la tête du cabinet un homme. Mais il faut encore qu'on se dise bien que les femmes n'ont pas toujours la place qu'elles devraient avoir. Hein. L'autre jour, je le disais, quand j'étais au séminaire d'Union et Solidarité, l'association des bailleurs, c'est vrai que quand il y a eu certaines tables rondes, etc., on a été une minorité de femmes. Et à l'accueil, ça a été deux femmes, deux faces de deux femmes qui travaillent chez deux bailleurs. C'est rare, par exemple, un poste d'accueil pour accueillir du monde lors d'un séminaire ou quoi que ce soit, que l'on retrouve des hommes. C'est quand même majoritairement des femmes. Donc, ça évolue la situation, mais il faut continuer.
Alors, la question suivante. J'ai mon notaire qui est à Nancy. Est-ce qu'il peut intervenir dans une opération à Paris, Marseille, Nice, enfin ailleurs ?
Eh bien, écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a une limitation au niveau du territoire, etc.
Eh bien, c'est vrai. C'est vrai parce que
il peut intervenir
la compétence des notaires, elle est nationale.
D'accord.
Le notaire peut intervenir partout en France. Vous n'êtes donc pas obligé de changer de notaire si vous déménagez.
Ça, c'est une bonne chose. Si on a trouvé la perle rare des notaires.
Dans la tête des gens, c'est voilà, j'ai un notaire à Nancy. Je vais acheter une maison à Foura, en Charente-Maritime. Est-ce que je vais pouvoir on verra plus tard sur une autre question. Pourquoi ?
D'accord.
Alors, toutes les visites chez le notaire sont facturées librement. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?
Alors, je pense que d'abord, ça doit être affiché, ces tarifs. Mais du coup, c'est pareil. Là, je ne sais pas du tout si c'est comme chez le médecin où il y a des tarifs encadrés. Je ne sais pas du tout.
C'est faux. C'est faux. Les visites chez le notaire ne sont pas facturées librement. Le notaire, il assure une mission de service public. Mais il vaut mieux lui poser la question avant de le rencontrer au moment que vous prenez le rendez-vous, par exemple. Traditionnellement, le premier entretien pour de simples conseils est gratuit. Le notaire est un officier public. Il est nommé par le ministre de la Justice et il pratique donc des tarifs réglementés qui sont fixés par décret, notamment pour les actes dont il a le monopole, par exemple l'immobilier, le droit des familles, dont les successions et autres.
Ça, c'est encadré. Ouais.
En revanche, il peut percevoir des honoraires libres dans le cas de prestations de conseils. Il est dans ce cas recommandé de lui demander un devis.
Bah oui, je dirais comme dans d'autres professions, on ne s'engage pas non plus à l'aveuglette et il vaut mieux savoir où on met les pieds et ce que ça va nous coûter.
De toute façon, que l'on sache ou que l'on ne sache pas, si les visites chez le notaire sont facturées librement, la première des choses qu'on doit faire, c'est comme quand on va dans une entreprise commercial ou une entre...
C'est comme par exemple quand je vais acheter une voiture.
On fait faire un devis, voilà.
Quand je vais acheter une voiture, je demande le prix avant de me dire si je vais l'acheter ou pas. Et là, c'est pareil, quoi.
Alors, il y a un courant d'idées aussi qui passe, comme quoi les notaires sont très branchés nouvelles technologies. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?
Des geeks, je ne sais pas. Je pense qu'ils sont obligés de s'adapter parce que la société évolue, mais du coup... c'est peut-être comme le restant de la population, il y en a peut-être qui sont à la page, et il y en a peut-être aussi qui n'y sont pas. Tu nous dis quoi, toi ?
Je dis que c'est vrai, parce que les études notariales sont justement ultra connectées, parce qu'ils utilisent la dématérialisation des documents, les signatures électroniques des actes, les visioconférences. De nos jours, certains actes peuvent se signer complètement à distance. Mais, pour des actes importants, il est quand même recommandé de passer par l'étude. C'est vrai que quand on signe la vente d'une maison...
La vente d'une maison, tu
voilà, on ne va pas faire n'importe quoi.
Voilà. Et là, il vaut mieux signer en vrai et en dur.
Alors, d'autre part, là, ce sont des petites questions. Si vous avez besoin de plus de renseignements, pour en savoir plus sur les notaires, vous pouvez consulter le site www.notaire.fr.
Voilà. Et on repartagera cette information sur notre page Facebook.
Citoyens au quotidien sur RCN.
Alors, on va parler de quoi maintenant, Sylvie ?
On va parler de quoi ? Eh bien, là, c'est encore toi qui cause. Là, moi, pour l'instant, je me repose. Je reviendrai tout à l'heure, mais là, je me repose.
Eh bien, on va parler de quelque chose qui est important. Nous avons eu une formation, il n'y a pas très longtemps, un webinaire, sur la cybermalveillance.
Voilà.
Suite à ce webinaire, nous avons des incitations à faire à nos auditeurs. D'abord, d'une part, c'est de se rendre sur le site, mais on va quand même leur dire qu'il faut être vigilant.
Voilà. Alors, c'est peut-être de rappeler dans quel cadre ça s'est passé, cette formation au CLCV. C'était dans le cadre du Cybermois. Le Cybermois, c'est quelque chose qui revient tous les ans. Et ça couvre tout le mois de novembre. Donc ce sont des événements pour sensibiliser justement les consommateurs à tout ce qui peut se passer via Internet et notamment la cybermalveillance, puisqu'il y a quand même beaucoup d'attaques via cette cybermalveillance. Donc voilà, je te passe la parole.
On va commencer par donner une adresse.
Ouais.
Et on la donnera. Je vais la donner là maintenant et je la redonnerai à la fin.
Voilà. Et puis on la donnera
Si vous êtes victime, pour trouver de l'assistance, nous vous conseillons de faire HTTPS, j'ai bien dit avec un S au bout, l'absence du S est importante. Deux points. Donc, /www.cybermalveillance.com. Alors, cybermalveillance, cybermalveillance.gouv.fr/diagnostic/profil. Voilà, ça c'est un lien extrêmement utile et extrêmement important.
Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que même quelqu'un qui n'aurait pas noté, en écrivant simplement sur internet cybermalveillance.gouv.fr...
On arrive là.
On a un certain nombre de propositions. Et bien entendu, il faut choisir la bonne. C'est toujours là le truc.
Alors, ce qui se passe, on peut pas décliner ici tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a fait lors de cette formation qui a duré une heure.
Ouais.
Une heure devant un écran. Moi, j'ai appris plein de choses.
Et une heure intense. C'était intense.
Oui, parce qu'il n'y a pas eu de moment d'arrêt. Hein.
Non, bah sur ces webinaires ou qui sont libres d'accès, ouverts à tous, c'est vrai qu'on n'a pas possibilité d'interférer avec les personnes qui présentent le webinaire.
Les personnes qui pourraient se poser des questions sur le contenu de cette formation, ils prennent contact avec nous sur, je crois que c'est malzeville@clcv.org.
Tout à fait.
Pour nous demander d'avoir le contenu de cette formation, et là, on transférera automatiquement toute la...
Voilà, et on peut même dire de représenter, par exemple, s'il y avait un groupe de personnes sur une commune ou quoi que ce soit, on peut aussi très bien retransmettre en direct.
On peut refaire cette formation. Mais
voilà, tout à fait.
Alors, avant d'expliquer le parcours d'une victime sur cybermalveillance.gouv, je vais mettre l'accent sur quelque chose qui arrive très souvent. Vous retrouvez un message ou un SMS douteux, quelle réaction vous pouvez avoir? Ce qu'il faut faire et ne pas faire. Parce que quand on a un message douteux, on devient...
Il joue sur la panique.
On panique, on fait des erreurs, on fait des bêtises. Moi, j'ai une clé USB hier, j'ai tout perdu. Je me demande si il ne m'est pas arrivé un truc comme ça où j'ai... Je ne sais pas. Donc, la première des choses, ne pas paniquer et garder la tête froide. Et puis, ne pas rester seul. Ne pas répondre, ni cliquer. Et puis après, là, il faut en parler à une tierce confiance, une personne de confiance. Voilà, c'est la première des choses. Il faut vérifier la cohérence de l'émetteur, son message et le contexte. Par exemple, contacter l'émetteur avec ses propres coordonnées.
Oui, par exemple, si on...
Mais là, il faut faire attention.
Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a par exemple des SMS qui circulent actuellement où c'est soi-disant notre enfant qui nous écrit en nous disant « maman, papa, etc. Bon, j'ai plus de téléphone et vous pouvez m'appeler sur tel numéro, etc. »
Attention.
La première chose, si on n'a pas d'enfant, là, c'est même pas la peine. Mais si vraiment on a un enfant, c'est de l'appeler. Mais sur le numéro qu'on connaît, pas sur le numéro qui vient de nous être indiqué.
Je vais y revenir à cette cohérence-là. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, se méfier aussi des messages alarmistes, anxiogènes ou trop alléchants. Le comportemental est la première cible des pirates.
Oui, c'est vrai que quand on... un message alarmiste, on va avoir peur, donc on est tenté de réagir tout de suite. Anxiogène, c'est un peu sur le même principe. Les trucs aussi très, très alléchants, par exemple sur des offres publicitaires, etc. Par exemple, quand on nous propose, un smartphone et tout ça, ce genre de produit à un prix, mettons 20 ou 30 euros, là, il faut avoir un réflexe de dire, c'est pas possible que ça coûte ce prix-là, et donc je ne réponds pas au message que je viens de recevoir.
Alors, il y a aussi s'informer ou trouver de l'assistance. Donc là, c'est sur cybermalveillance.gouv.fr.
Voilà.
Je reviens sur la cohérence de l'émetteur. J'ai eu, il y a quelques temps, en 2011-2012, un ami de l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui était au Vietnam. Il était au Vietnam et qui m'envoie un message sur un mail en me disant « Christian, tu es parti en Afrique ?» Et je lui réponds « Non, pourquoi ?» Il avait eu, lui, un message qui était arrivé comme quoi j'étais en difficulté et que j'avais besoin qu'il m'aide, qu'il m'envoie de l'argent. Voilà. Alors, il a eu ce bon réflexe, là, c'est de m'appeler.
De t'appeler sur tes vraies coordonnées.
Sur mes coordonnées, sur les coordonnées qu'il connaissait. Mais on peut s'imaginer qu'il aurait pu m'aider. Mais en fait, il aurait aidé
un escroc.
Qu'on appelle un brouteur.
Voilà. Envoyer de l'argent à quelqu'un qui n'était pas toi. Alors après, si on passe sur le côté s'informer, donc ou trouver de l'assistance, donc sur cybermalveillant, alors leur site est quand même vachement bien fait, moi je trouve. Il est bien, par exemple,
j'avais envoyé à une connaissance
le lien
pour que cette personne suive cette formation. Elle m'a répondu et depuis, elle n'a pas été capable de me dire si elle y était allée ou pas, mais je pense qu'elle n'y est pas allée parce que je crois qu'elle avait déjà été sur cybermalveillance et qu'elle n'avait pas eu la réponse qu'elle attendait. Je pense que il faut être aussi patient parce que des fois,
quand on fait, par exemple, là, tu vas nous parler du parcours d'une victime.
Oui, on va parler du parcours d'une victime
qui se rend justement sur cybermalveillance.
Alors, la première chose, c'est le diagnostic. Il faut chercher à comprendre le problème. Il faut savoir qu'est-ce qui vous arrive. Ensuite, il faut aller chercher des conseils auprès des personnes, des conseils personnalisés, qui sont proposés. Donc, pour ça, il faut aller sur cybermalveillance.gouv.fr. Là, il faut après décider de se faire aider et sélectionner un prestataire.
Donc en fait, là, c'est Cybermalveillance qui nous propose
c'est ça.
Une liste de prestataires qui vont pouvoir nous aider à résoudre le problème que l'on a.
Ensuite, ils vont suivre la bonne exécution de la prestation. Et puis après, ils vous demanderont, il y aura une demande de satisfaction.
C'est important de le dire parce que le traitement, c'est des vraies personnes. Vous avez posé une question, il ne traite pas non plus par mots ciblés ou quoi que ce soit avec des réponses types. C'est vraiment votre dossier qui est étudié. Alors, moi, je n'ai pas noté combien il y avait de dossiers qui leur parvenaient, mais c'est un truc de fou, quoi.
Ah non, non, c'est...
Et c'est vraiment
c'est
les spécialistes. Nous, par exemple, en tant qu'association de consommateurs, de locataires, si quelqu'un vient nous voir, on va pouvoir l'orienter sur ça. On va pouvoir voir qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on peut tous... Moi, pas plus tard que hier, hein, avec mon profil Facebook, j'avais reçu plusieurs fois, soi-disant, un message de Facebook comme quoi il y avait une activité anormale et que je n'étais pas dans les clous au niveau de Facebook. J'ai quand même cliqué aujourd'hui et j'ai reçu un message du vrai Facebook qui me disait que quelqu'un essayait de connecter sur mon profil Facebook et la personne était à Hanoï, au Vietnam. Je ne sais pas pourquoi le Vietnam s'intéresse à moi, mais bon, c'est comme ça.
Il pouvait très bien être ailleurs.
Voilà. Peut-être qu'il n'était pas du tout au Vietnam, mais que sa position était donnée comme étant au Vietnam, je ne sais pas. Donc, on peut tous... Alors, voilà. Donc, là, j'ai changé illico, mot de passe et compagnie. Donc, il y a quelquefois des choses qui sont très simples à appliquer, mais il y a des situations qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus graves que le simple fait d'une tentative de pirater mon profil Facebook, quoi. Donc, c'est pour ça que nous, on ne pourra pas forcément traiter des dossiers très complexes, mais en tout cas, on peut accompagner la personne pour qu'elle se rende sur cybermalveillance et pour éventuellement qu'elle démarre son dossier sur cybermalveillance.
Donc, il y a d'autres contenus d'information et de sensibilisation que vous pouvez avoir en allant sur cybermalveillance.gouv.fr. Il y a aussi des vidéos de sensibilisation sur Dailymotion. Donc là, c'est pareil, hein, vous faites https://www. Alors, vous écrivez Dailymotion.
Dailymotion.
dailymotion.com/cybermalveillance. Je souhaiterais quand même que tu ne te moques pas de moi
pour ma prononciation d'anglais. J'oserais pas.
Et puis, il y a des nouveaux services qui sont proposés par beta.gouv.fr et France Identité. Notamment, pour ajouter un filigrane à ces documents importants avant de les communiquer.
Ça, c'est un truc que j'ai trouvé génial, ça.
On vous demande des fois d'envoyer votre carte d'identité pour un dossier quelconque, là. Eh bien, vous faites https://filigrane.beta.gouv.fr/. Et là, ils vont mettre un filigrane qui empêchera qu'on puisse utiliser votre carte d'identité à autre chose que c'est destiné. Vous pouvez aussi, vous déjà, faire une inscription sur votre carte d'identité, comme quoi, par exemple, réserver pour un logement, par exemple.
Mais c'est vrai que ça, c'était vraiment, vraiment bien, quoi, parce que c'est vraiment un truc hyper sécurisé, quoi.
Alors, vous pouvez aussi monter un dossier de qualité en sécurisant ces documents, c'est-à-dire tous vos documents.
Donc, c'est dossierfacile.fr. Et puis, il y avait quoi ? Garder la maîtrise de ces données d'identité, générer un justificatif d'identité à usage unique. Voilà. Et là, c'est france-identité.gouv.fr. Alors, on a beaucoup causé et on a bien avancé déjà, hein.
Voilà. Tu veux faire une musique ?
Ouais, on va faire une petite musique parce qu'on arrive sur la fin de l'année, le mois de décembre, c'est Noël bientôt. Voilà, et moi je vous propose, enfin c'est aussi le technicien qui nous a proposé la musique parce qu'il me manque une musique. Je vous propose d'écouter donc Enya et le titre de la chanson c'est « We wish you a Merry Christmas ».
Happy New Year.
Citoyens au quotidien sur RCN
avec la CLCV de Malzéville-Saint-Max.
Alors Sylvie, tu nous parles de l'agenda ?
Voilà, alors ça va être un agenda tout simple. Hein. Effectivement, on arrive sur la fin d'année, donc on n'a pas d'animation prévue, pas de trucs, etc. Mais juste dire à nos auditeurs que les bureaux de la CLCV seront fermés pendant les deux semaines de vacances scolaires. On fait comme les gamins, on se met en repos, histoire de revenir au mois de janvier en pleine forme. Donc voilà, strictement fermé du lundi 25 décembre au vendredi 5 janvier. Donc on est de retour dans nos bureaux pour les permanences, donc ça va être le 9 janvier où on reprendra les permanences. Bien entendu, s'il y a quelque chose, je ne sais pas, d'urgent, on peut toujours nous envoyer un message, un mail sur notre adresse mail qui est la suivante, malzéville@clcv.org. Donc, pour le mois de janvier, je vais rappeler nos jours de permanence sans rendez-vous. Donc, le mardi et le jeudi de 9h30 à 12h, et de 14h30 à 17h, et le mercredi de 14h30 à 17h. Ça, c'est pour les permanences sans rendez-vous. Notre adresse, donc, nous sommes situés bâtiment Franklin, 60 rue du Colonel Drian à Malzéville. L'arrêt de bus pour venir nous voir, c'est la ligne 13, direction Demartemont, et l'arrêt, c'est Alexandre Ier. Qu'est-ce que j'ai pas dit encore ? Le numéro de téléphone,
oui,
pour nous joindre, c'est le 03 83 29 10 96. La page internet, malzéville@clcv.org. Et puis, je pense que j'ai tout dit pour cette émission, puisque de toute façon, on sera là de retour au mois de janvier. On va peut-être dire, parce que là, on arrive vraiment sur la fin de l'émission. On va dire au revoir. Enfin, moi, je vais dire au revoir à nos auditeurs. Je vous souhaite à tous de passer de belles fêtes de fin d'année. Et puis, donc, je donne rendez-vous pour une nouvelle émission, parce que pendant les vacances, ce sera des rediffusions pour des nouvelles émissions en mois de janvier 2024. Je remercie Jean-Luc à la technique. Je te remercie toi aussi, Christian.
Merci, bonne fête à tout le monde.
Voilà, bonne fête à tous et à tout bientôt sur RCN 90.7.